Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour aussi à ceux qui ne croiraient pas en Jésus. Je suis très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui parmi vous. Et merci beaucoup pour l'invitation de pouvoir partager la parole de vous, la parole de Dieu avec vous. C'est un grand privilège et je vous dis merci pour cette invitation. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune homme. J'ai rencontré un jeune homme malgache qui, depuis quelques années, sert la France dans la Légion étrangère. Alors, vous connaissez sûrement la Légion étrangère. Donc, c'est des soldats de l'armée française qui sont envoyés dans les coins très chauds, dans les coins dangereux, et en premier, ils sont envoyés là-bas. Par exemple, en Afghanistan, au Mali, c'est eux qui étaient les premiers soldats français sur place. Alors, il m'a expliqué ce qui est primordial, c'est d'écouter, ses supérieurs. De ne pas douter quand ils donnent des ordres, mais d'écouter à la lettre ce qu'ils disent. Faire confiance et d'agir comme ils demandent d'agir. Sinon, voilà, il y a pas mal de problèmes qui se présentent si ces légionnaires ne font pas ça. Notre texte parle d'un terrain de bataille. J'ai donné comme titre à cette prédication, donc « Tenez bon », on pourrait aussi dire « Tenez ferme » ou « Tenez debout ». Et nous allons voir deux points. Le premier point, c'est « Mettez les armes de Dieu ». Et le deuxième point, c'est « Battez-vous dans la prière ». Mettez les armes de Dieu, battez-vous dans la prière. Donc premièrement, on va commencer par « Mettez les armes de Dieu ». Paul nous présente ici donc les armes de Dieu, l'armure de Dieu, on pourrait dire aussi. Et c'est un passage très connu, peut-être que vous avez déjà entendu des prédications là-dessus. Et nous voulons d'abord nous poser une question très importante au début. Pourquoi en fait ? Pourquoi en fait est-ce qu'il faut avoir des armes, une armure ? Parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a une bataille. Et donc là, nous approchons vers quelque chose, vers une vérité très simple au début. C'est que ce qui est écrit ici est écrit pour des chrétiens, pour des personnes qui ne seraient pas chrétiennes, des personnes qui ne croient pas en Jésus. Ces versets paraissent bizarres, parce qu'en fait, ils nous parlent d'un monde invisible, en lequel beaucoup de gens aujourd'hui en France ne croient pas. Et ce monde invisible qui a des influences sur le monde visible, c'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a un monde invisible et un monde visible. Et le monde invisible influence le monde visible. Donc nous voyons ici les forces du mal qui sont puissantes. Et on le voit dans plusieurs versets. Par exemple, le verset 12, je vais le lire. « En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. » Vous voyez vraiment, Paul enchaîne. En fait, pour décrire et avancer au verset 11, il y a le diable, on va dire le chef de l'armée, et en dessous de cette armée, il y a toute une organisation. Il ne va pas dans les détails, mais on se rend compte, en fait, il y a vraiment des principats, des autorités, il y a différents ordres dans cette armée, comme une armée humaine. Il y a le général, il y a les sous-généraux, etc. Et quand on lit ça, en fait, quand on lit, ça continue, hein, au verset 13, il y a d'autres choses qui nous sont présentées. En fait, une conséquence de ça, c'est le jour mauvais, au verset 16, les traits enflammés du mauvais, donc on sait que c'est les attaques de Satan lui-même. Donc quand on lit tout ça, ça fait quand même beaucoup, et on peut se sentir très, très, très découragé. On se dit, oh là là, mais c'est une bataille qui ne s'arrête pas. De tous les côtés, on est assailli. Comment survivre à ces hordes ? Comment survivre à cette masse d'ennemis qui se présente à nous ? Nous sommes appelés en tant que chrétiens à tenir debout sur un champ de bataille. Il y a une guerre, il y a une lutte, c'est indéniable. La Bible nous en parle et nous en reparle. Et la Bible nous enseigne que la vie chrétienne est le contraire d'une vie de facilité. À quoi donc sommes-nous appelés ? Nous sommes appelés à vivre ceci, cette parole. Nous sommes appelés à vivre Éphésiens. Et vous avez étudié ensemble pendant plusieurs semaines, voire des mois, ensemble l'épître donc aux Éphésiens. Et je veux donc très rapidement juste survoler. Est-ce qu'on pourrait montrer le plan de l'épître, s'il vous plaît? Donc, en fait, pour voir qu'est-ce qui a été enseigné jusqu'ici. Voilà, très bien, merci. Donc, nous lisons dans Éphésiens, les deux premiers chapitres, il est question de la grâce. Dieu nous fait du bien en Jésus. Versets 2 et 3 nous est montré l'unité. Les païens et les juifs sont maintenant unis dans un peuple de Dieu. Les non-juifs et les juifs sont unis. Et donc, la conséquence, c'est le chapitre 4. Il faut s'efforcer à garder cette unité. Il y a le côté pratique, hein. Il y a l'enseignement et le côté pratique qui suit. Et maintenant aussi, verset 17 du chapitre 4 jusqu'au verset 21 du chapitre 5, nous voyons la vie ancienne et la vie nouvelle que nous pouvons vivre grâce à Christ. Et enfin, donc, avant ça aussi, le passage donc, pratique, d'enseignement pratique, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie chrétienne. Chapitre 5, verset 22, au chapitre 6, verset 9. La famille et le travail. Comment est-ce que je dois me comporter en tant que mari, en tant que femme de mari, en tant qu'enfant, en tant que quelqu'un qui travaille, qui donne du travail. Donc les ordres de Dieu concernant tout ça. Et enfin, donc, nous voyons à la fin les armes du chrétien et la fin de l'épître. Vous voyez, ici nous avons l'enseignement et après l'enseignement, la mise en pratique dans notre vie de cet enseignement. Et Satan attaque pour que nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Pour oublier l'amour de Dieu envers nous, en Jésus. Et après ça, bien sûr, que nous oublions à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens dans ce monde. Et nous sommes appelés, nous avons un appel qui est grand, mes amis, qui est important. Satan veut nous faire oublier ce que Dieu a fait pour nous. Ce que nous sommes devenus par lui, par sa grâce magnifique. Satan veut aussi que nous oublions à quoi nous sommes appelés dans ce monde. Merci, on peut peut-être faire passer le slide. Le but de Satan, donc, au verset 11, on le voit. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon. C'est le contraire, donc, de tenir bon. Le but de Satan, c'est le contraire de tenir bon. De tenir bon, de tenir ferme, de rester debout. Il veut que nous lâchions prise. Il veut que nous tombions. Il veut que nous soyons blessés, que nous soyons rendus incapables de porter des fruits pour Dieu. Satan est très rusé pour essayer de nous emprisonner, de nous empoisonner, de nous empêcher, de nous mener dans des pièges. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas juste simple. Et elle n'est pas simple. Un évangile qui donnerait l'impression que la vie chrétienne est juste simple, ou serait simple, qu'on n'aurait pas de problème en tant que chrétien, ça, c'est pas l'évangile. C'est un faux évangile. J'étais au Kenya pendant un an en mission là-bas. Et donc un jour aussi, je suis allé évangéliser avec des amis, avec des connaissances. Et une de ces connaissances... Donc je l'entendais comment il parlait, je crois que c'était une jeune femme qui n'était pas croyante, et il voulait la convaincre de se convertir. Et donc il disait, oui, si tu reçois Jésus, tout sera positif dans ta vie, tu vas voir, tout sera super. Juste convertis-toi et ça tu verras. Moi après ça, je suis allé le voir, cet homme, et je lui ai dit, écoute, la Bible nous enseigne aussi que la vie chrétienne est très difficile, que nous sommes appelés à réfléchir avant de nous engager avec lui. Il a dit oui, mais ça, elle pourra l'apprendre après. Ça. Pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'elle se convertisse. Mais ça, ce n'est pas honnête. Nous sommes appelés à être honnêtes. On va le voir, la vérité, comme ceinture. Avançons donc dans cette prédication. Nous voulons voir comment nous pouvons être rendus capables de mener cette bataille que nous sommes appelés à mener. Et pas seulement de la mener, mais de vaincre, de triompher en cette bataille. Verset 10, « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. » C'est notre appel en tant que chrétien d'être fort, d'être puissant dans le Seigneur, par cette force qu'il veut nous donner. Et nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin d'être forts. Il faut que nous nous rendions compte de la nécessité, profonde nécessité, et aujourd'hui, je dirais même plus que dans toutes les époques avant nous, d'être fort. Revêtez toutes les armes de Dieu. Chers amis, le début, ce que je viens de lire, revêtez toutes les armes de Dieu. Ce verset nous oblige à nous rendre compte d'une chose importante, primordiale. Nous sommes nus. Nous sommes nus. Il nous faut des vêtements. Il nous faut une armure que Dieu veut nous donner. Il nous la met à notre disposition. Nous sommes nus. Nous sommes faibles par nous-mêmes. Nous ne connaissons pas notre faiblesse totale, mais notre infini besoin de lui, de notre Dieu, de son aide. C'est pour cela que nous ne connaissons pas la force du Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. C'est ce que Jésus a dit. Nous avons besoin du médecin. Ne soyons pas comme les pharisiens qui disaient « Non, nous, on n'a pas besoin, tout va bien, merci, on est fort, c'est bon. » Se rendre compte de sa faiblesse, ça veut dire être préparé. Se rendre compte de sa faiblesse, ça veut dire être préparé, c'est en fait la moitié de la victoire dans cette bataille. Je répète, se rendre compte de sa faiblesse, c'est en fait déjà la moitié de la victoire dans cette bataille. Si nous comprenons cela, nous comprenons la clé de ce texte. Verset 13, l'apôtre parle de jours mauvais. Il y a des jours mauvais. La vie chrétienne est d'une certaine manière toujours la même. Nous aimons le Seigneur, nous le suivons, nous voulons le connaître mieux. Mais il y a des variantes, il y a des jours plus difficiles, il y a des jours mauvais. Et nous vivons indéniablement aujourd'hui, à notre époque, un jour très mauvais. Nous ne nous cachons pas de cette vérité. Nous avons des conflits dans le monde entier, et ça grandit ces conflits, c'est vrai. Mais il y a là un problème encore plus grand que ça, je dirais. C'est le mal et le péché qui sont normalisés autour de nous, qui sont très bien organisés, qui sont enracinés, qui sont même encouragés par des lois dans notre pays. Nous avons la conséquence de ça, des criminels qui ne sont plus punis comme ils devraient l'être. Et le mal devient normal. Nous sommes un mauvais jour aussi parce que même dans l'Église, nous trouvons une confusion grandissante, impressionnante. Des personnes importantes, des responsables, qui nient même l'Évangile. Qui nient même le droit fondamental à la vie de chaque être humain. Qui nient que le mariage est entre un homme et une femme. Tout ça a lieu en France, aujourd'hui. Nous vivons donc une époque où même des personnes dans des postes, qui ont des postes importants dans l'Église nient ce que la Bible enseigne très, 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 très clairement. Et même la base de ce que nous croyons, la justice de Dieu. Que Dieu est un juste juge qui va juger le monde. Chacun d'entre nous va être devant lui, jugé. Des personnes qui nient le péché, qui disent non, ça n'existe pas le péché. Qui nie l'existence de l'enfer, d'un endroit où les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas pardonnées, vont être jetées et tourmentées. Et enfin, bien sûr, des gens qui nient que Jésus nous sauve, que lui a porté notre péché, ce que nous méritions. Il l'a porté sur cette croix. Des gens qui nient ça dans l'Église, des gens avec une importance. Sans aucun doute, donc, nous vivons dans de jours mauvais. Et si nous voulons résister, si vous voulez résister, chacun d'entre vous, il y a un seul chemin. Et c'est le chemin dont nous parle ce texte. C'est le chemin dont nous parle l'apôtre. Nous avons besoin de cette force qui vient de Dieu lui-même. Nous avons besoin de l'armure, de ces armes que Dieu nous met à notre disposition. Nous en avons tellement besoin. Mettez donc les armes de Dieu. Il y a plusieurs impératifs, donc des demandes de l'apôtre envers les chrétiens dans ce passage. Il y a verset 11, revêtez, verset 13, prenez, verset 14, tenez bon, verset 17, prenez aussi le casque. Vous voyez vraiment, il y a un empressement, il y a une urgence dans ce texte. Et il faut que nous voyons ça. À cette époque, il y avait l'urgence, combien plus aujourd'hui? Paul nous présente donc ici les armes de Dieu. Verset 11, elles viennent de Dieu, ces armes. Paul ne nous demande pas à les produire, à aller, je ne sais pas, produire ces armes chez nous à la maison. Il ne nous demande pas de les acheter, comme c'était le cas pour les soldats romains de l'époque. Les armes ne leur appartenaient pas, ils les achetaient. Il ne nous demande pas de les acheter, mais il nous demande de les mettre. Nous les avons reçus par la grâce de Jésus, par la croix en fait. On va revenir un peu là-dessus plus tard. Donc nous avons ici l'illustration, vous le savez sûrement, des armes d'un soldat romain de l'époque. Paul, quand il écrit ça, il a un soldat romain dans sa tête. Et il y a 6 éléments de cette armure que Paul reprend. Donc nous avons la ceinture, la cuirasse, les sandales, le bouclier, le casque et l'épée. Donc on va traverser ça assez rapidement. C'est un texte tellement riche, on pourrait en prêcher pendant des heures, des jours sûrement. Donc, tenez bon. Comment tenir bon? Verset 14, en mettant à vos reins la ceinture de vérité. La ceinture, donc c'est la vérité, c'est la sincérité. Nous devons nous attacher aux vérités de l'Évangile. Nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs, nous sommes sous le jugement de Dieu. Mais Jésus nous a pardonné la ceinture de la vérité. Alors que de l'autre côté, nous avons donc Satan qui nous attaque, qui est un menteur et le père du mensonge, c'est ce que nous dit la Bible. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à garder cette vérité et à nous accrocher à elle, à l'accrocher à nous. Tenez bon, comment tenir bon? En verset 14, revêtant la cuirasse de la justice. La cuirasse, ça protège les organes vitaux, le cœur aussi. La justice de Christ nous est donc donné, imputé. Ce n'est pas notre justice, c'est comme un vêtement, nous sommes sales par nous-mêmes, mais Christ nous donne sa justice, sa pureté, et nous la mettons comme un vêtement propre. Et Dieu nous voit, du coup, de manière pure, même si en nous-mêmes nous ne le sommes pas, mais lui nous rend purs. Revêtant la cuirasse de la justice, ce qui fortifie donc notre cœur, contre les attaques que Satan mène contre nous. Tenez bon, comment tenir bon? Verset 15, mettant les chaussures à vos pieds. Et on va un peu maintenant plonger un peu plus là-dedans. Les chaussures, ce n'est pas des bottes, c'est en fait des sandales. Une semelle avec des lanières. Et le plus important avec ces sandales, c'est qu'il y a des caboches en dessous. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est en fait des clous à large tête qui servent à ferrer les chaussures de marche. Donc vous voyez, c'est des chaussures qui donnent une fermeté, une stabilité pour ne pas glisser et pour avoir aussi une rapidité dans le combat. C'est très important dans le combat, ça donne une force par rapport aux adversaires quand on est rapide. Alors, maintenant vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai choisi cette traduction ici et pas la seconde 21. La seconde 21 traduit ce verset « Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Donc, en fait, la seconde 21 nous dit que ce serait l'évangélisation, la sandale. Mais il y a un problème, si nous disons ça, c'est que ici, le contexte nous explique que ça ne peut pas être cela. Parce que le contexte, c'est « Tenez bon, vous êtes dans une bataille et vous avez besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu dans cette bataille. » Vous voyez, ce n'est pas à nous de produire quelque chose, c'est à nous de recevoir quelque chose ici, de recevoir une stabilité, une protection. Et c'est pour ça que je vais vous lire la traduction donc mot à mot du grec de ce verset, donc du verset 15. « Mettez pour chaussure à vos pieds la disposition de l'évangile de la paix. » La disposition de l'évangile de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Le but, on va retourner un peu vers les sandales, à quoi elles servaient? Le but de l'usage de ces sandales était de protéger en fait aussi les pieds. Il y avait des pièges pointu, tranchant, qui était placé par les ennemis à l'époque. Et le but de ces pièges était de blesser, en fait, le pied des soldats, en espérant qu'après, cette blessure s'infecte. Et du coup, le soldat était incapable de marcher et, bien sûr, était incapable de se battre. Vous voyez, donc, ici, nous rentrons dans le sens que nous donne le texte. Mettez pour chaussure à vos pieds la disposition de l'évangile de la paix. Ça veut dire que nous avons besoin d'un cœur préparé et résolu à adhérer, à s'accrocher, à tenir bon, à tenir ferme à l'évangile, à rester dans cet évangile, dans cette bonne nouvelle. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer d'un rythme régulier et de ne pas devoir être freiné, arrêté dans notre marche et dans notre bataille. Et c'est l'évangile de paix. Pourquoi de paix ? Parce que cet évangile nous donne toutes sortes de paix. Nous avons la paix avec Dieu, la vraie paix. Nous ne pouvons rien ajouter par nous-mêmes, par nos œuvres. Nous avons la paix avec nous-mêmes, avec notre propre conscience. Et nous avons la paix avec les autres autour de nous. Ça, c'est la vraie paix. L'évangile nous donne cette paix. Et donc, qu'est-ce que l'application pour nous ? C'est que nous devons rechercher, nous devons garder cette paix que l'évangile veut nous donner et nous donne et crée en nous, en fait. Ne soyez donc pas rapidement provoqués. Ne soyez pas rapides à vous disputer, mais montrez de la douceur aux gens autour de vous. Et portez courageusement ce que vous devez porter de la part du Seigneur. Et ça vous préservera de beaucoup de tentations, de beaucoup de problèmes avec les gens. Et surtout, cet évangile, si nous tenons bon, nous protégera. Protégera nos pieds. Protégera et nous rendra capables de faire des mouvements rapides, d'avancer de manière stable et continue dans notre marche chrétienne. Comme les sandales protégeaient les soldats de ces pièges de l'époque. Tenez bon. Comment tenir bon ? Verset 16. « Prenant en toutes circonstances le bouclier de la foi. » Alors ici, les amateurs d'Astérix connaîtront très bien ce bouclier. C'est en fait comme une grande porte. Donc c'est vraiment un grand bouclier. Et c'est la partie, moi je dirais, la plus importante. Oui, on ne peut pas dire la plus importante, pardon. Une des parties les plus importantes de cette armure. Les attaques, les tentations du diable sont ici décrites comme étant des traits enflammés, des flèches enflammées. C'est en fait à cause de la rapidité de leur vol. On ne discerne pas bien les flèches dans le ciel. Et c'est pareil avec les attaques de Satan. On ne s'en rend pas compte. Tout à coup, elles arrivent. Et ces attaques, elles donnent de profondes blessures à nos âmes. Des tentations violentes qui veulent mettre le feu à notre âme. Et par la foi, donc, nous sommes appelés à les éteindre. Combien cette foi est belle dans nos heures de tentation. Et nous devons être convaincus de la véracité profonde de la parole de Dieu, des promesses de Dieu pour nous, de toutes les menaces aussi que Dieu nous donne dans sa parole. Nous devons prendre tout ça au sérieux. Et donc Hébreux 11 nous dit qu'est-ce que la foi ? En fait, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, la foi. Par la foi, nous sommes donc appelés à éteindre ces flèches enflammées qui viennent vers nous. Ces flèches, elles viennent, c'est normal. Des fois, des chrétiens disent « Oui, mais c'est bizarre, moi je suis tenté, attaqué, je ne me sens pas bien, je pense que je dois me repentir de ça. » Non, c'est les tentations, nous ne sommes pas appelés à nous repentir des tentations, mais nous sommes appelés à tenir bon dans la tentation. Et bien sûr, si nous tombons, là nous sommes appelés à nous repentir. Donc c'est tout à fait normal si des flèches arrivent. Ne vous en faites pas. C'est même un bon signe, je crois. Ça veut dire que l'ennemi attaque. Et si l'ennemi attaque, c'est qu'il y a raison d'attaquer. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Voilà, ça peut en tout cas vraiment le montrer. Par notre foi, ces flèches doivent être rendues inefficaces. C'est ce que nous dit ici l'apôtre. Tenez bon. Comment tenir bon ? Verset 17. Le casque. Nous devons mettre le casque qui protège la tête. Et le casque, c'est notre salut. Le salut que rien ni personne ne peut nous prendre. Le salut que Jésus a accompli pour nous sur cette croix ensanglantée. Personne ne peut nous arracher de la main du bon berger. Personne ne peut nous prendre notre salut. Savoir ça, ça nous aide dans la bataille. Quand Satan nous dit, oh, nous met à l'oreille, nous siffle à l'oreille, ah, mais regarde ce péché. Regarde-toi, t'as perdu le péché, là, tu as perdu ton salut là. Non, car nous avons un sauveur puissant. Puissant. Tenez bon, comment tenir bon? Verset 18, l'épée, c'est un ustensile extrêmement, extrêmement important dans le combat pour un soldat. Une grande utilité. Et pour le chrétien aussi, nous avons une épée. Nous avons une épée puissante, puissante. Et une épée qui nous permet de rester debout dans la bataille spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Et nous avons, à travers cette épée, du succès. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Une épée, donc, de l'esprit. L'Esprit Saint. Dieu lui-même a rédigé ces lignes, a inspiré les personnes parfaitement qui ont écrit ce qui est écrit ici. C'est la vérité totale, parfaite, révélée par Dieu. Et donc l'Esprit rend cette arme, cette parole efficace. Il la rend puissante, il la rend aiguë et tranchante. Et donc nous sommes appelés à utiliser cette écriture, à ne pas la laisser recevoir la poussière dans nos armoires, la lire, la prendre par cœur même. Rien de plus puissant pour résister aux tentations. Et Jésus lui-même nous donne l'exemple. Il est tenté par le diable, 40 jours, 40 nuits dans le désert. Après ça, le Satan vient vers lui et le tente. Et à chaque fois, à chaque tentation, Jésus répond, « Il est écrit !» Et il cite des versets bibliques. L'arme puissante, la parole de Dieu, la Bible. Nous avons besoin de cette arme, aujourd'hui plus que jamais, et de nous accrocher à cette parole, de ne pas poser par terre cette épée, et à commencer à raisonner avec la philosophie ou d'autres choses, avec la psychologie. Non, la parole suffit. Sola scriptura, comme le disaient les réformateurs, la parole seule. Nous avons donc la ceinture, nous avons la cuirasse autour de nous, les sandales aux pieds, le bouclier, le casque, l'épée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, tout ça couvre tout le corps humain, sauf le dos. Donc, nous ne sommes pas appelés à mettre notre dos vers l'ennemi, mais nous sommes appelés à nous battre, nous ne sommes pas appelés à fuir. Mais ça nous montre aussi que toute la personne est impliquée, toute la personne, tout l'être humain, tout le chrétien est impliqué dans cette bataille. Nous ne sommes pas des chrétiens partiellement, juste au dimanche. Nous sommes des chrétiens tous les jours, totalement, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons chanté tout à l'heure. Que notre être est impliqué dans ce conflit que se présente ici à nous. C'est important que nous comprenions ça. Et donc nous avons besoin d'une habitude, tous les jours, de mettre cette armure que nous recevons par la grâce de Dieu. Le soldat, il ne met pas son équipement juste le jour de la bataille. Non, il met avant, après, il s'entraîne avec. Nous sommes appelés à toujours avoir cette armure sur nous, car les attaques de l'ennemi sont des surprises, souvent. Donc nous devons mettre ces choses en nous rappelant que Jésus est celui qui a tout fait pour nous et qui nous donne ses armes dans sa bonté. Et donc, accrochons-nous à lui, chers amis. Accrochons-nous à lui avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Donc, après avoir vu en détail les armes du chrétien, on va maintenant passer au deuxième point. Battez-vous dans la prière. Verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Nous sommes ici invités à prier et à prier sans cesse, tout le temps. La prière, en fait, doit nous servir d'attache, comme bouton, pour mettre ses armes. Elle fait partie de cette bataille, la prière. La prière, c'est le fait de parler à ce puissant général glorieux et victorieux Jésus-Christ. C'est ça, la prière. Satan est battu. Depuis la croix, c'est un ennemi battu. La guerre est gagnée. Il y a des batailles, mais la guerre est déjà gagnée en fait. Et nous avons les dernières convulsions de l'ennemi devant nous. Elles sont certes puissantes, ces convulsions, mais notre Dieu est plus puissant. Et vous noterez que notre mission n'est pas de battre Satan, c'est déjà fait. Notre mission, et l'apôtre Paul le répète à 3 reprises, c'est important quand il répète des choses. Au verset 11, tenir bon. Verset 13, tenir bon. Verset 14, tenez bon. Notre mission, c'est de tenir bon. Ce n'est pas de vaincre Satan, il est déjà vaincu. Et nous ne pouvons pas améliorer ce que Dieu a déjà fait par sa puissante œuvre. Dans la bataille dans laquelle nous nous trouvons en tant que chrétiens chaque jour, nous avons besoin beaucoup d'aide et de choses. Et avant tout, nous avons besoin de parler avec ce grand général victorieux, glorieux Jésus-Christ. Nous avons tellement besoin de son aide. Et voilà à quoi ces prières de combat peuvent ressembler. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, que je puisse parler et agir de telle manière que cela t'honore. Seigneur, tu vois ce péché avec lequel je me bats depuis si longtemps. S'il te plaît, aide-moi. Seigneur, tu vois, j'aime ton épée, j'aime la parole, mais je ne la connais pas assez. Et bien trop souvent, je la laisse fermer. Aide-moi à l'ouvrir, aide-moi à la connaître, aide-moi à me battre. Et il y a une telle nécessité que l'apôtre nous demande de prier sans cesse, tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire prier par l'Esprit, verset 18 ? Ça veut dire que c'est juste ceux qui connaissent personnellement Jésus qui peuvent prier, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Seulement ces personnes-là vont être entendues par Dieu le Père. La vraie prière, c'est celle qui est vivante. Et celle-là, elle est juste possible si elle est faite par quelqu'un qui croit en Jésus. C'est vrai, on peut aussi prier en tant que non-croyant, mais alors ce sont souvent des formules à l'avance, des choses mortes, récitées comme ça, sans vie. Et de l'extérieur, pourtant, on pourrait dire qu'il y a de la vie. Moi-même, j'ai expérimenté un ami à moi qui venait chaque semaine pendant un an à la réunion de prière de l'église. Il priait vraiment des très belles prières, je m'en souviens. Et des prières que nous dirons, ah, bah, c'est vivant ça. Il remerciait Dieu pour sa grâce, pour sa bonté dans sa vie, dans notre vie, dans l'église. Il a prié pour les inconvertis, pour qu'ils se convertissent vers Dieu. Pourtant, après ça, il m'a fait part qu'il n'était pas croyant. Vous voyez, de l'extérieur, nous pouvons paraître. Mais là, c'était mort, parce qu'il était mort. Et quand nous paraissons vivants, mais nous sommes morts. Spirituellement morts. Mais Dieu, par son esprit, peut insuffler la vie. Dieu est puissant. Nous voyons aussi une invitation à prier pour les saints. Pour se faire rester éveillé et consacrer toujours, assidûment, à supplier pour tous les saints. Alors c'est qui les saints ? Les saints, ce n'est pas une élite de chrétiens, de croyants. Non, c'est, d'après la Bible, chaque croyant, chaque chrétien est un saint. Et donc, nous sommes appelés à prier pour tous les saints. Alors, nous n'avons pas de difficulté de prier quand nous sommes dans des situations difficiles. Hein. En voiture, lorsqu'il y a une situation très dangereuse, en voiture... Dans l'avion, peut-être, c'est pas difficile de prier. Et c'est pas tellement difficile de prier pour nos propres intérêts. Ah, Seigneur, s'il te plaît, fais que ce week-end, la météo soit sympa. Paul nous demande ici de dépasser ces prières qui sont égocentriques et qui sont juste fixées sur nous-mêmes. Elles ne sont pas interdites, ces prières. Mais c'est malsain lorsque les prières tournent tout le temps que autour de nous-mêmes. Et donc, Jésus nous aide à nous détacher de cet égoïsme, égocentrisme. Nous devons donc prier pour les autres chrétiens. Ils sont dans les mêmes batailles que nous. Ils ont des attaques aussi de l'ennemi. Ils ont besoin des armes de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à prier que Dieu vienne aussi à leur secours, à leur aide. Mais comment donc est-ce possible de prier pour tous les chrétiens ? Tous les saints, c'est écrit dans le texte. C'est pas un peu trop quand même ? Je sais pas combien de milliers de croyants. Il y a sur cette planète, il y en a beaucoup quand même. Ça paraît impossible, et c'est pour ça que nous sommes appelés à prier sans cesse. Cette demande n'est pas impossible à mettre en pratique, parce que l'amour de Dieu, l'amour envers les frères et sœurs, nous pousse à prier. Et dans son amour, Dieu désire nous entendre, désire t'entendre, il aspire à ça. Alors pour ça, il faut s'informer. Comment est-ce qu'on peut s'informer ? En allant vers les chrétiens, en leur demandant des sujets de prière, en recevant des lettres de nouvelles. Et le verset 21, les versets 21 et 22, en fait, nous montrent dans cette direction. Paul veut informer l'église à Éphèse, dans cette ville, à travers Tychique. C'est un ministre digne de confiance, quelqu'un qui annonce aussi la parole de Dieu. Et donc, Paul le renvoie à Éphèse pour qu'il les mette au courant de tout. C'est-à-dire qu'il les mette au courant des choses difficiles qu'il vit, des batailles. Il est en prison aussi. Il est en prison sûrement à Rome, Paul qui écrit cette lettre. Donc voilà, là il y a des sujets d'intercession, mais aussi qu'il vous encourage. Tychique a des sujets d'encouragement pour l'Église. Et donc, sujet d'encouragement, ça veut dire des sujets de reconnaissance envers Dieu dans la prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait à travers Paul à Rome, même s'il est en prison, tu es grand, tu es puissant, merci. Nous sommes donc appelés à nous informer et à prier. Nous voyons aussi par rapport à la prière, une invitation à demander que l'Évangile continue son avancée victorieuse. Paul demande aux croyants d'Éphèse de prier pour son service personnel d'enseignement, de prédication, de proclamation de la vérité de Dieu. Et ici, Paul apporte un sujet très personnel qui lui est vraiment, qu'il a à cœur, un sujet urgent. Et un sujet, encore une fois, qu'il demande à porter en tout temps, tout le temps devant Dieu. Vraiment, nous avons beaucoup de raisons de prier en tout temps. Donc, que Dieu l'aide à annoncer la bonne nouvelle, que Jésus est mort pour des pécheurs, qu'il est ressuscité, qu'il est puissant, qu'il peut sauver et qu'il veut sauver l'Évangile. Il a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour annoncer cette bonne nouvelle. Et si Paul n'arrivait pas, Paul qui était un génie, si Paul n'arrivait pas à agir seul pour Dieu, Combien plus, aujourd'hui, ce jour mauvais, avons-nous besoin de prier pour les prédications, pour les prédicateurs, pour les anciens, pour les pasteurs, pour les missionnaires, pour la relève qui vient du futur pour l'Église en France et dans le monde francophone, le Maghreb, l'Afrique, la Guyane. En Angleterre, au XIXe siècle, deux hommes veulent visiter une église connue, le Metropolitan Tabernacle, dans lequel prêchait à l'époque Charles Spurgeon. Ils rencontrent un homme qui devait être le concierge et ils lui demandent une visite des lieux. Le concierge leur demande « Puis-je vous montrer le chauffage de cette église ? Il est exceptionnel, ce chauffage. » Ils acceptent et donc ils le suivent et en fait, ils les mènent dans le sous-sol et puis dans une grande salle dans ce sous-sol. Et dans cette salle, c'est étonnant, il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de chaudière. Il y a tout à fait autre chose. Il y a plusieurs centaines de personnes qui prient ensemble. Et le concierge était en réalité le pasteur, donc Spurgeon lui-même. Par cette image du chauffage, Spurgeon voulait nous dire quelque chose d'important aujourd'hui. Sans la prière de ces personnes, sans leur fidélité régulière dans la prière, il n'y aurait aucune possibilité, aucune, de se rencontrer ici. Tout serait glacial, tout. Je pourrais parler, mais il n'y aurait pas de chaleur dans mes mots. Et Dieu seul peut offrir cette chaleur, les paroles qui vont droit au cœur, dont nous avons besoin. En tant que chrétien, mais aussi pour ceux qui ne croient pas encore en notre Sauveur. Prions donc. Quel jour urgent, quel jour de prière. Et ça nous mène vers la prière finale de Paul, qui lui-même se met à prier à la fin de cette épître, versets 23 et 24. À la fin de cette lettre, à la fin de toutes ces exhortations, comment est-ce que nous devons vivre pour vivre une bonne vie chrétienne? Qu'est-ce qu'il va nous écrire? Qu'est-ce que Paul, notre ami, va nous écrire à nous aujourd'hui? aux chrétiens de l'époque, mais aussi à nous aujourd'hui. Paul termine donc avec une prière pour les chrétiens, tout d'abord d'Éphèse. Que la paix, verset 23, et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Normalement, sa prière à la fin de ses lettres, c'est « Que la grâce soit avec vous » ou quelque chose dans ce style. Sa prière au début d'Éphésiens et de beaucoup d'autres lettres, c'était « Grâce et paix vous soient accordées ». Éphésiens 1, verset 2. Ici, nous avons bien plus. La paix, l'amour, la foi. La paix, l'amour, la foi. Que Dieu vous donne cela. Et c'est en fait un autre mot pour décrire la grâce. Ce don gratuit de Dieu dont nous avons besoin. Et ici, la grâce ne nous est pas juste présentée comme une fontaine, mais comme des courants, comme un fleuve de bonté, venant de la source même de toute bonté, du bon Dieu, le Père, et aussi du Fils. Nous avons ici la vie chrétienne en concentré, la paix, l'amour, la foi. Et Paul désire qu'ils aient plus ces chrétiens. Dieu a commencé une œuvre en eux, il désire que Dieu continue cette œuvre. Et en d'autres mots, Paul est en train de dire, « Je vous souhaite et je prie que votre bonheur puisse continuer, puisse augmenter. » Et donc, nous avons vu, de la part de Dieu, ces choses, elles viennent. C'est ce que dit le texte. Toute bonne chose vient de Dieu, à travers le mérite de la croix, à travers l'intercession de Jésus, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous aujourd'hui. Verset 24, la prière continue, la prière de Paul. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Et cette prière est différente du premier verset, du verset 23. Ici, il prie pour tous les vrais croyants, pas juste d'Éphèse, mais aussi pour nous. Paul priait pour nous. Il priait pour les croyants du monde entier, ceux qui venaient après. Et nous voyons qu'un vrai chrétien aime son Seigneur, celui qui l'a sauvé. Il lui doit tellement à ce grand Dieu qu'il a sorti des abîmes. Dans l'impérissable, c'est ce que nous dit le verset à la fin. C'est pas très simple à traduire. Moi, je pense que ça veut dire que c'est ceux qui sont constants dans leur amour envers Dieu et qui continuent à aimer Dieu et qui avancent dans cet amour. Et que cet amour n'est pas arrêté par les appâts que Satan nous lance, par les séductions. Mais l'amour continue, l'amour grandit envers notre Seigneur et Sauveur. Ne soyons donc pas satisfaits avec ce que Dieu nous a déjà donné, mais désirons plus, mieux comprendre, mieux connaître ce Dieu. Et désirons aussi que les gens, nos frères et sœurs autour de nous, connaissent mieux ce grand Dieu. Et donc prions. C'est un jour urgent. Chers amis, c'est un puissant témoignage. Quand quelqu'un vit bien, quand quelqu'un triomphe, quand quelqu'un réussit à vivre la vie chrétienne, c'est quelque chose de puissant. Vous avez peut-être des exemples dans vos têtes de frères et sœurs. C'est un encouragement pour beaucoup quand quelqu'un arrive à vivre tel que Dieu veut qu'il vive. Quand quelqu'un arrive à tenir ferme, arrive à tenir debout, arrive à tenir bon. Quelqu'un qui a un autre point de vue que la masse, qui ne chute pas. Et le monde, si nous regardons sur le monde cet après-midi, le monde est bien malheureux. Très malheureux. Très, très malheureux. Les hommes et les femmes autour de nous sont confus, ils ne savent plus quoi croire, ils ne savent plus quoi faire. Ils titubent dans le brouillard, ils tombent, ils chutent, ils se relèvent, ils tombent. Et la chute finale, l'enfer. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un qui tient ferme, quelqu'un qui est debout, qui reste debout, La question, c'est certain, la Bible nous l'enseigne, je pense, la question surgira, quel est le secret de cette personne? Comment se fait-il qu'il soit différent? Comment? Pourquoi tient-il debout? Et ainsi, on peut être un évangéliste, juste en restant debout, juste en vivant le verset 10. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Vous ne connaîtrez jamais de force dans votre vie tant que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Si vous ne le connaissez pas, pas de force. Ces personnes sont impressionnantes. Ces personnes qui ne se laissent pas emporter par le courant, qui ne font pas les choses parce que les autres les font, mais qui font les choses parce que Dieu nous dit de faire. Des personnes qui ont des convictions fortes, qui sont prêtes à les défendre et même à souffrir. Souffrir pour ses convictions. Martin Luther, le grand réformateur du XVIe siècle, se tenait debout devant un des plus grands rois de l'époque. Et il disait, pas que lui, il y avait autour de lui aussi des évêques, des gens très importants de l'Église de l'époque. Et il disait, je suis debout ici et je ne peux pas faire différemment. Et il a défendu l'Évangile. Il était debout contre 1000 années de mauvais enseignements dans l'Église. Il était debout contre des politiciens, contre des personnes puissantes de l'époque. Et il disait, je suis debout et je ne peux pas faire différemment. C'est notre appel aujourd'hui. Ce ne sera pas simple. Martin Luther, qui connaît sa vie, sait qu'il a beaucoup souffert pour notre Seigneur. Mais il a vécu une bonne vie. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Dans le passé, cette manière de se comporter, de tenir bon, de tenir ferme, Martin Luther nous le montre, cette manière de vivre était souvent, par la bénédiction de Dieu, le moyen par lequel des gens furent réveillés par Dieu. Le moyen par lequel des gens furent convaincus, je suis pécheur, j'ai besoin d'aide, de l'aide de Dieu, je suis coupable, l'enfer m'attend. Et qui donc ont cherché Dieu et l'ont trouvé en Jésus-Christ, ont trouvé le salut. Si ce n'est pas aujourd'hui le jour de tenir bon, de tenir ferme, je ne sais pas quel jour nous attendons. Ça va nous coûter, mais tenons bon. Et donc, regardons à lui. Regardons à Christ lui-même. Vous avez regardé l'ennemi ? Nous l'avons regardé aujourd'hui ensemble. Nous avons regardé sa puissance, nous avons regardé vers nous-mêmes, notre faiblesse impressionnante, incroyable, indescriptible. Et nous tremblons devant nous-mêmes, nous tremblons devant ces forces qui nous entourent. Mais il y a quelqu'un qui a tenu bon, mieux qu'un Luther. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est jamais tombé, il n'a jamais chuté. Il a tenu bon parfaitement. Il est notre exemple. Il nous pardonne quand nous chutons, mais il nous aide aussi à tenir bon, à rester debout. Regardons donc, chers frères et sœurs, regardons, chers amis, vers Christ, notre espoir puissant, et restons, tenons ferme. Tenez bon, tenez ferme, restez debout. Que Dieu nous accorde cette grâce, encore une fois, pour sa seule gloire. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes assaillis de tous côtés. Dessous, dessus, autour de nous, en nous-mêmes, nous sommes assaillis et nous tremblons, Seigneur. Et si nous ne tremblons pas, Seigneur, je te prie que tu, dans ta grâce, fasses que nous tremblions. Seigneur, nous tremblons. Et nous te prions que dans ce jour mauvais dans lequel nous vivons, nous puissions tenir bon, tenir ferme, tenir debout. Car c'est ta volonté pour nous aujourd'hui. Seigneur, aide-nous, même si ça nous coûte, même si nous devons souffrir, à aimer Jésus. Ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné toutes bonnes choses. Nous te louons pour lui. Nous ne pouvons jamais dire assez à quel point nous sommes reconnaissants pour ce grand Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous. Oh Seigneur, je te prie que par cette grâce, par la croix, Seigneur, nous puissions être sauvés, oui, mais aussi amener d'autres personnes au salut. Seigneur, un jour urgent aujourd'hui, un mauvais jour, je te prie pour mes frères et sœurs ici, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ici, Seigneur, que ta volonté soit faite, non la nôtre, non la nôtre. Seigneur, aide-nous à tenir bon. Merci parce que nous avons un puissant général, victorieux, glorieux pour nous aider. Aide-nous à mettre l'armure, aide-nous à prier en tout temps pour tous nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, pour l'Église. Glorifie ton nom encore pour ta seule gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Thank you.